Vous êtes en plein midi avec Pierre Guérin.
Il y a quelques semaines, le National Post publiait un article où on mentionnait que lors d'une expérience réalisée à Vienne, une particule de matière avait été téléportée d'un laboratoire à un autre. Il s'agit là d'une première dans le monde scientifique et pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui M. Claude Crépeau, qui est professeur à l'École d'informatique à l'Université McGill à Montréal. M. Crépeau, bonjour.
Bonjour.
Il s'agit pas exactement... on parle de téléportation et la référence pour tout le monde, du moins pour les amateurs de science-fiction ou ceux qui ont regardé la télévision un peu, c'est Star Trek, c'est Beam Me Up, Scotty, mais c'est pas exactement de quoi on parle ici.
Premièrement, c'est sûr que ce n'est pas exactement la même chose, parce que là, on parle de téléporter des particules, donc c'est quelque chose qui se passe à un niveau microscopique, mais on verra peut-être un peu plus tard dans l'entrevue qu'il y a quand même un lien, c'est-à-dire que c'est pas complètement par hasard que ce que l'on a décrit porte le nom de téléportation, parce que quelque part, il y a vraiment quelque chose qui est analogue avec ce qu'on peut imaginer là, dans la science-fiction, de prendre un objet à un endroit, de le dématérialiser et de le reconstituer à un autre endroit. C'est beaucoup ça là, l'image qu'on a de la téléportation. Mmh. Puis d'une certaine façon, c'est le même schéma qui est appliqué au niveau d'une particule. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi est-ce qu'on va s'intéresser à une question comme ça, d'essayer de déconstruire une particule à un endroit, la dématérialiser et la reconstituer à un autre endroit? Ben, c'est là qu'on va voir que, en fait, il y a un défi vraiment très particulier quand on veut faire ça avec des particules qu'on n'aurait pas au niveau macroscopique. C'est-à-dire que quand on regarde les objets de tous les jours, ben, si je veux reconstruire, je sais pas, si j'ai un livre sur la table et que je vais en faire une copie, ben, j'ai la capacité de reprendre toute l'information et d'en construire un autre. Alors que au niveau microscopique, au niveau des particules, il se passe un phénomène qui est absolument extraordinaire, qui est décrit par la mécanique quantique, qui nous dit que les propriétés qui décrivent la particule au moment où on se parle ne sont pas toutes accessibles en même temps. C'est-à-dire qu'il est absolument impossible d'aller faire une mesure et de savoir parfaitement dans quel état se trouve la particule. Toute intervention qu'on va faire pour essayer d'obtenir de l'information, du même coup, va détruire une partie de l'information. Donc, c'est impossible de regarder une particule comme on regarde un livre. Quand on regarde une particule, une fois qu'on la voit, on a détruit une partie de l'information qui était là. Alors que pour un livre, quand je le regarde, je ne détruis pas le contenu du livre. Puis il y a vraiment une analogie très forte dans cette image-là. Au niveau des particules, on peut aller chercher de l'information sur l'état de la particule, mais en faisant ça, on va perdre d'autres propriétés qu'on aurait pu mesurer. Puis c'est irrévocable, parce qu'on a voulu regarder une chose, il y en a d'autres qu'on pourra pas voir. Alors le défi de la téléportation quantique, puis de l'expérience qui a été réalisée, c'est d'arriver à prendre toute la description qui se trouve dans une particule à un endroit donné, et de l'amener dans une autre particule qui est ailleurs, sans justement pouvoir la mesurer, parce que si on essaie de la mesurer, on va perdre une partie. Mais ce qu'on réussit à accomplir avec la téléportation quantique, c'est de prendre toute la description des propriétés de la particule, puis de les transmettre dans une autre particule qui va se retrouver à avoir exactement les mêmes propriétés que la particule initiale, qui, elle, va les avoir perdues.
Alors, c'est pas que la particule voyage, ce sont un peu, ce sont les particularités, si on veut prendre le mot, ce sont les...
C'est ça, ou les propriétés, si on veut, ou les attributs de la particule. C'est effectivement, d'une certaine façon, le contenu de la particule, c'est-à-dire que la particule a un certain nombre de paramètres qui décrivent son comportement, où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle va, de quelle façon elle réagirait face à un aimant, de quelle façon elle réagirait en présence d'une autre particule. Toutes ces choses-là, ce sont des propriétés de la particule. Donc, ça, c'est avant la téléportation. Mmh. Ce que la téléportation nous permet, c'est d'accomplir une opération sur cette particule-là qui, oui, va détruire son contenu, mais qui, du même coup, va transmettre son contenu dans une autre particule qui est ailleurs.
Nos auditeurs qui nous écoutent utiliser le mot « particule » depuis un bout de temps déjà se demandent peut-être de quoi on parle. Alors, essayons de définir. Lorsqu'on parle de particules, finalement, ce sont les blocs qui servent à constituer
c'est
la
ça.
Matière.
Mais... Effectivement, ce sont les éléments pour lesquels on a un modèle théorique depuis une bonne période de temps. On parle d'électrons, de protons, de neutrons qui constituent les atomes de la matière commune qu'on voit et qu'on connaît à tous les jours. Il y a les photons qui sont les particules de lumière dans lesquelles on baigne constamment parce qu'on est toujours en présence de lumière. Il y a toutes sortes de particules ésotériques dont je ne vais pas vous parler. Dans les expériences concrètes qu'on fait, on s'intéresse surtout aux particules de lumière ou surtout à des particules comme des électrons. Sont les particules élémentaires, là, je dirais, qui sont les peut-être les plus faciles à manipuler pour faire des expériences de ce type-là. Donc, par exemple, dans l'expérience auquel vous faisiez référence tout à l'heure, qui était fait en Autriche, sous le Danube, il s'agissait de particules de lumière, c'est-à-dire qu'on a pris une particule de lumière et on a fait une expérience dessus qui a permis de prendre l'état de cette particule-là et de le transmettre dans une autre particule de lumière qui se trouvait de l'autre côté du Danube.
L'autre terme que vous avez utilisé, c'est le terme « quantique ».
Oui.
Et ça, je pense qu'il faudrait définir, il faudrait décrire de quoi on parle.
Oui, effectivement. La mécanique quantique, c'est une théorie physique qui a été inventée au tournant du 20e siècle. Hein. Ça fait quand même presque 100 ans. Ça fait comme il faut 100 ans que cette théorie-là a été ébauchée. Pour expliquer qu'est-ce qui se passe dans l'infiniment petit. Parce qu'il y a toutes sortes de phénomènes physiques qu'on pouvait observer déjà à l'époque qui étaient très surprenants avec notre compréhension de la réalité. On avait cette intuition très forte que la réalité est un univers d'événements continus, c'est-à-dire que les choses se déplacent d'un point à un autre par une ligne droite qui est continue, puis qu'il n'y a pas d'espace vide là-dedans, puis ainsi de suite.
Une certaine logique...
Il y a une logique qui est reliée à l'intuition qu'on possède des choses de tous les jours, c'est-à-dire que ce qu'on voit au niveau macroscopique, c'est que si je déplace ma main dans l'espace, il y a un mouvement continu de ma main d'un point à un autre, puis il y a une continuité là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'infinité de positions que ma main va prendre entre le début puis la fin, et que tout ça, ça suit, puis que c'est continu, OK? Mm-hmm. Le mot quantique, diamétralement s'opposer à cette notion-là, c'est que à un moment donné, on s'est rendu compte qu'au niveau des particules élémentaires, là, c'est dans un univers tout petit, il se passe quelque chose de bien extraordinaire, c'est que il y a, par exemple, des positions qui sont possibles et d'autres positions qui sont impossibles. Je vous donne un exemple. Si on imagine le Soleil avec la Terre qui tourne autour, eh bien, la Terre va suivre une orbite autour du Soleil qui va être une espèce de grand cercle et la Terre va occuper ce grand cercle-là pendant des générations et des générations. Et on pourrait repousser la Terre un petit peu plus loin ou mettre la Terre un petit peu plus proche. Puis si elle tournait un petit peu plus vite ou un petit peu plus lent, elle serait quand même stable sur une orbite qui serait plus proche ou plus loin.
Principe mécanique.
C'est un principe mécanique.
Ouais.
Position de la Terre n'est pas spéciale. Elle pourrait être un peu plus loin, elle pourrait être un peu plus proche. Puis la mécanique fonctionnerait quand même. Mm-hmm. Mais au niveau des particules, si on remplace le Soleil par un noyau atomique puis qu'on remplace la Terre par un électron, en fait, ce que la mécanique quantique nous dit, c'est que les orbites où l'électron peut tourner sont très, très bien définies. C'est-à-dire que si, par exemple, on peut en avoir un électron qui serait comme sur l'orbite de la Terre, on ne pourrait pas l'avoir un petit peu plus proche ou un petit peu plus loin. La seule possibilité, ce serait, par exemple, qu'il se retrouve à un autre niveau beaucoup plus proche, par exemple, à l'orbite de Vénus, mais qu'entre Vénus et la Terre, c'est pas possible qu'il y ait d'électrons qui gravitent là. Donc, le terme quantique a été amené pour dire qu'il y avait une quantification, une discrétisation qui donne des états bien précis comme étant possibles et d'autres entre eux qui sont carrément impossibles. Alors ça, c'est très choquant quand on pense à ça au début parce qu'on a vraiment l'impression, mais pourquoi est-ce que ça serait impossible entre les deux? Pourquoi est-ce qu'il y a certaines préférences qui font qu'à certains endroits, ça marche, puis à d'autres endroits, ça marche plus? C'est simplement que les règles de la nature ne sont plus les mêmes. Puis ce qu'on a découvert, c'est que quand on travaille dans le très petit, ben ça se passe plus comme dans le macroscopique, ça se passe plus comme dans le quotidien, ça se passe autrement. Les règles que nous, on connaît, c'est une version simplifiée, si on veut, du phénomène qui se passe au niveau quantique, parce que là, lui, il décrit très, très précisément ce que chaque atome, chaque particule va faire, mais nous, à notre échelle, on n'a pas besoin de savoir tout ça. Et donc, peut-être pour nous ramener un peu sur le sujet de départ, dans les développements de l'informatique, dans les développements de l'électronique, on fait de plus en plus des composantes qui sont miniaturisées pour pouvoir en mettre de plus en plus à l'intérieur d'une puce informatique pour être de plus en plus puissant. Mais à la vitesse où on progresse maintenant, bientôt on va se retrouver au niveau atomique. C'est-à-dire que bientôt, les composantes de base qu'on va vouloir intégrer dans un circuit vont être la grosseur des atomes. Mais ce qui arrive, c'est que lorsqu'on fait ça, ben les règles qu'on a utilisées jusqu'à présent sur comment vont fonctionner les composantes, ben il va falloir de plus en plus tenir compte du fait que là, ça va être des nouvelles règles. Puis donc, inévitablement, d'ici 10 ans ou 15 ans, on va être rendu qu'on va vouloir construire des ordinateurs dont la structure même va être basée sur les règles de la mécanique quantique.
Mais c'est pas un univers qui est instable à l'échelle quantique. Il y a des règles, il y a des principes qui sont prévisibles.
En théorie, la mécanique quantique nous donne des règles qui sont très strictes et qui nous donnent un niveau de prévisibilité qui est très grand. Néanmoins, étant donné qu'il y a énormément de particules, étant donné qu'il y a en général des systèmes qui sont pas bien isolés les uns des autres, il y a énormément d'interactions entre des systèmes, et ce qui fait que ça devient relativement compliqué, parce que si on pouvait travailler avec ça comme avec des blocs Lego, puis qu'on pouvait les séparer les uns des autres, puis travailler avec chacun comme un objet individuel qui n'a pas rapport aux autres, ça serait facile, mais dans la réalité, c'est très difficile d'arriver à ça. Et donc, les règles décrivent très bien ce qui se passe quand on en a juste un, mais quand on en a des milliers ensemble, ben là, ça devient de plus en plus difficile de dire exactement sur un, deux, qu'est-ce qui va arriver en tenant compte des 999 autres autour qui ont eux-mêmes le propre comportement.
Je veux revenir à notre sujet, la téléportation.
Oui.
Je lisais dans l'article qu'on parle de forces mystérieuses ou de phénomènes bizarres qui permettent de réaliser justement l'expérience de téléportation. On disait que ça a été identifié il y a une dizaine d'années à Montréal dans le cadre d'une espèce de conférence internationale dont vous faisiez partie. Alors, qu'est-ce qui a été identifié? Quelle est cette force mystérieuse?
Cette force mystérieuse dont il était question, c'est un phénomène qui était théoriquement proposé par des physiciens célèbres, Einstein, Podolsky et Rosen, en 1935. Si la mécanique quantique était une description valide de la réalité, il y aurait des phénomènes relativement étranges qu'on pourrait observer. Puis à cette époque-là, ben, il y avait quand même un certain doute, est-ce que c'est vraiment ça, ou est-ce que c'est parce qu'on est dans le champ à essayer de décrire la réalité avec la mécanique quantique. Puis alors, ce phénomène-là a porté par la suite l'acronyme EPR pour les trois auteurs, et c'est un phénomène qui met en évidence le fait que des systèmes de particules peuvent se trouver en connexion à des distances très, très grandes. Okay? Fait que j'ai essayé de vous donner une image un peu plus claire de ce que je veux dire. A priori, on s'imagine qu'une particule, c'est une espèce de petite bille, puis que cette petite bille-là, quelque part, d'une certaine façon, encodée à l'intérieur, il y a un paquet de propriétés. Okay? Donc, c'est un peu comme ça qu'on s'imagine la réalité. Puis, une des choses que nous dit la mécanique quantique, c'est que c'est pas comme ça que ça se passe. Ce qu'elle nous dit, c'est qu'il peut exister des systèmes, par exemple, avec deux particules, telles que les propriétés de ces deux particules-là résident dans les deux particules. C'est-à-dire que je ne peux pas en prendre une des deux, séparée de l'autre, et décrire les propriétés de cette particule-là. Les propriétés, c'est vraiment quelque chose qui décrit les deux en même temps. Puis, quelle que soit la distance entre les deux, même s'il y en a une ici, puis qu'il y en a l'autre dans une autre galaxie, si ces deux particules-là sont dans cet état particulier, s'ils ont ces propriétés-là, ils vont partager cette propriété-là, quelle que soit la distance entre les deux.
Est-ce qu'on peut parler de jumelles identiques ou à peu près?
Mais ce ne sont pas des jumelles identiques, en fait. Au contraire, ce serait un peu des jumelles opposées, si on veut.
Ah.
C'est-à-dire que l'état le plus particulier qu'avait décrit EPR, c'est un état où si deux observateurs, où qu'ils soient dans l'univers, regardent ces deux particules-là de la même façon, ils vont toujours les voir à l'opposé. Je vais vous donner un exemple simple, OK?
Oui.
Supposons qu'on parlait de couleur. Alors, supposons que je vous parlais de couleur, puis que je vous disais, j'ai une boule de billard dans ma main, puis la propriété qu'elle possède, c'est d'avoir une couleur.
Mm-hmm.
Rouge, vert, jaune, et ainsi de suite. Ben, il existerait des paires de boules de billard qui, a priori, sont blanches. C'est-à-dire qu'elles possèdent toutes les couleurs possibles. Néanmoins, si moi, je demande à une des deux billes de quelle couleur es-tu, puis je lui dis, est-ce que t'es rouge ou t'es verte? J'ai choisi rouge et verte parce que ce sont deux couleurs complémentaires. Ben, si à moi, elle me disait qu'elle est rouge, ben, l'autre deviendrait verte. Puis si à moi, elle disait qu'elle est bleue, bien, l'autre deviendrait orange. C'est-à-dire que ils vont toujours se comporter de façon opposée face à la même question. Puis, a priori, ces deux particules-là n'étaient pas bleues et oranges, ni rouges et vertes. Ils étaient dans une composition de couleurs qui va toujours donner à une l'inverse de la couleur de l'autre.
Ces particules-là ont les mêmes propriétés, c'est ce que c'est?
Ben, ces particules-là partagent la propriété que si on leur demande leur couleur, ils vont toujours dire l'inverse l'une de l'autre. Elles sont dans un état de couleur qui est « nous sommes opposés ». Quelle que soit la façon que vous vouliez nous regarder, on sera toujours opposés. C'est ça qui est l'état un peu bizarre et un peu farfelu qui est la propriété de ces deux particules-là. C'est d'être toujours opposé en termes de couleur. Puis, ce phénomène-là a été effectivement mis en évidence dans les années 70, qui ont démontré qu'avec des particules de lumière, où maintenant on ne parle plus de couleurs, mais de d'autres propriétés, qu'à chaque fois qu'on mesurait la propriété sur une de deux particules, que l'autre avait toujours la propriété inverse.
Alors, reliés, mais par leur opposition, si on
veut. C'est ça. Ils sont reliés par leur contradiction l'une à l'autre, mm-hmm. si on veut. Mais encore une fois, ce qui est très étonnant, c'est que ce phénomène-là se passe à des distances arbitraires. Ça peut être très, 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 très loin. Et ils vont quand même être opposés. Fait qu'il y a quelque chose qui semble contradictoire parce que ça semble dire, ben, c'est comme si ces deux particules-là se parlaient ou se communiquaient à une vitesse très, très, très grande. Parce que si la mienne ici, elle dit rouge, comment l'autre, à l'autre bout de l'univers, peut savoir instantanément qu'il faut qu'elle dise vert? C'est d'une certaine façon, c'est qu'on voit mal la réalité quand on dit ça. Parce que les deux particules, en fait, c'est un seul objet qui est très, très grand dans l'espace, qui s'adonne à avoir un petit bout dans ma main puis un petit bout dans l'autre main là-bas. Puis que quand je demande à ma particule, est-ce que t'es rouge ou t'es verte, puis qu'elle me dit, je suis rouge, ben en fait, je viens de faire une expérience sur l'objet complet qui contient les deux particules. Puis, tout d'un coup, ils se sont retrouvés dans un état, une rouge puis une verte. Puis la rouge est chez moi, puis la verte est là-bas. Quand on parle d'utilisation d'un canal avec des propriétés extraordinaires pour faire la téléportation, ben effectivement, on fait référence à l'existence de ce phénomène-là. Puis ce phénomène-là, comme je vous disais, il a été mis en évidence de façon expérimentale dans les années 70, et donc ça fait un bon 30 ans qu'on sait que la mécanique quantique dit la vérité.
Alors, est-ce que la téléportation, est-ce que ce phénomène-là existe entre ces particules-là qui font partie du même objet et qui sont contradictoires?
C'est presque ça, mais pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, ces deux particules-là qui sont contradictoires l'une de l'autre vont nous servir de canal de téléportation. C'est-à-dire que si, par exemple, vous et moi, on voulait téléporter une particule, la première chose qu'il faudrait faire, c'est de s'échanger, de se donner mutuellement la moitié d'une paire de type EPR. C'est-à-dire que vous avez votre moitié, moi j'ai ma moitié, mais les deux particules sont interreliées par ce phénomène-là qui avait été prédit par EPR. Ensuite, moi, je vais avoir une autre particule que je veux vous envoyer. Je veux vous envoyer l'état de cette particule-là. Et pour faire ça, je vais mesurer ma nouvelle particule avec ma moitié de la paire. Et en faisant une mesure sur ce système-là, les propriétés de la nouvelle particule vont se retrouver transmises à travers la corrélation bizarre qui existe avec la particule chez vous. Et chez vous, l'état de ma nouvelle particule va se retrouver chez vous. à une correction près. C'est-à-dire que vous allez avoir essentiellement la bonne valeur, mais vous allez avoir besoin que je vous dise comment faut interpréter ce qui est arrivé chez vous pour avoir la bonne valeur. Moi, je fais une mesure chez moi qui va me donner une réponse, qui va me donner 4 possibilités. Puis, je vais vous appeler au téléphone puis je vais vous dire, ben là, je viens de faire une mesure chez moi sur mes 2 particules et le résultat de ma mesure est, une des 4 possibilités. Et ça, ça va vous dire à vous comment transformer légèrement votre particule pour qu'elle redevienne exactement dans l'état que celle que je voulais vous envoyer était au début. Essentiellement, la paire EPR est un canal et on a aussi un canal parfaitement classique dans lequel je vais vous annoncer le résultat d'une mesure. Et vous, en recombinant votre particule qui fait partie du canal et l'information classique que je vais vous annoncer, vous allez être capable de faire une petite opération sur votre particule, puis tout d'un coup, elle va se retrouver exactement dans l'état de celle que je voulais vous transmettre.
C'est pas tout à fait l'équivalent d'un fax ou d'une télécopie d'informations, là.
Non, parce que la différence, c'est que de façon absolue, pour que l'information se retrouve chez vous, il faut que je la détruise à mon bout. Parce que l'information ne peut pas en même temps se trouver chez moi et chez vous. C'est-à-dire que la particule que je veux vous transmettre, ses propriétés, étant donné que je ne suis pas capable de les mesurer complètement, que je n'ai pas la possibilité d'aller découvrir toute l'information qui est cachée à l'intérieur, ça implique aussi que je ne peux pas en faire une copie parfaite. Parce que si je peux faire une copie parfaite, je pourrais faire 20 copies parfaites, des millions, des milliards de copies parfaites. Puis à partir de toutes ces copies-là, je pourrais faire des expériences qui finiraient par me donner l'information. Donc, il y a un énoncé fondamental en mécanique quantique qui découle du fait qu'on ne peut pas savoir toute l'information qui est cachée dans une particule, qui est qu'on ne peut pas copier parfaitement le contenu de la particule. Si j'affirme qu'à la fin du procédé, toute l'information est chez vous, il faut absolument qu'il n'y en ait plus chez moi.
Alors, l'original disparaît.
Exactement. C'est un peu comme si, quand je mets un papier dans un fax, ben c'était du papier blanc qui sortait, que ce que j'avais décrit dessus est disparu, et que à l'autre bout, ça ressort sur l'autre fax, que je vous envoyais, mais moi, j'ai perdu mon original.
C'est un transfert intégral de l'information.
C'est un transfert intégral et qui nécessite la destruction de l'information au point de départ.
Et donc, c'est pas ce qu'on peut appeler un clonage non plus, c'est autre chose.
C'est effectivement pas du tout un clonage, mm-hmm. Ce n'est pas une copie. Puis c'est vraiment pour ça qu'on a choisi le terme de téléportation, parce que dans l'image qu'on a de la science-fiction de la téléportation, on prend un individu, un objet, un endroit, on le décompose et on le reconstitue à l'autre bout, sans possibilité en même temps d'en avoir un qui est rendu là-bas, puis d'avoir gardé l'original en même temps. On détruit l'original pour le reconstruire. OK? Ça, c'est un choix que la science-fiction a fait pour des raisons je dirais de cohérence mentale, parce que si on se met à dire ben là on a un appareil pour faire autant de copies qu'on veut des individus, rapidement ça devient trop compliqué pour être intéressant. Fait que dans les phénomènes de téléportation, ils ont toujours senti le besoin de détruire l'original pour le reconstituer à l'autre bout. On a vu quelques rares épisodes, je ne sais pas à quel point vous connaissez Star Trek, mais on a vu quelques rares épisodes, particulièrement dans la série originale, où le capitaine Kirk était partiellement téléporté, puis là, il y avait une partie de lui qui était dans l'entreprise, puis une partie de lui qui était sur la planète. Mm-hmm. Celui sur la planète était bon, puis celui sur l'entreprise était mauvais. C'est que dans ce cas-ci, on avait pris une partie de ses propriétés, puis on les avait téléportées là-bas, mais il y en avait une partie qu'on avait conservée ici. Fait qu'il respectait quand même les mêmes règles, parce qu'on avait réussi à faire une copie, mais une copie imparfaite, parce que ça prenait les 2 copies pour reconstituer le vrai capitaine Kirk. Puis à la fin de cette émission-là, effectivement, les 2 se retrouvent sur le stand de téléportation. Ils sont retéléportés en un seul et unique capitaine Kirk qui a toutes ses propriétés. Tout ça, c'est complètement cohérent, en fait, avec le genre de téléportation dont nous, on parle, qui nécessite que l'information ne se trouve en même temps qu'à un seul endroit. C'est vraiment en partie à cause de cet imaginaire-là qu'on appelait ça la téléportation, parce qu'effectivement, il faut, dans ces expériences-là qu'on voyait dans la science-fiction, il y avait toujours la notion de perdre l'original pour arriver à le transporter ailleurs. Mais il pourrait avoir un fond de réalité là-dedans. C'est-à-dire que on peut avoir une notion très, très terre-à-terre de ce que c'est qu'un être humain. Hein, une notion très terre-à-terre, ça serait dire, ben là, si on avait un microscope suffisamment sophistiqué, puisqu'on est capable de regarder une à une les particules qui constituent le corps de la personne, puis d'écrire un programme informatique qui va aller lire toute la séquence de particules du corps d'une personne, ben à ce moment-là, on pourrait retransmettre cette séquence-là puis reproduire une copie de la personne. Mais là, on pourrait parler de clonage, parce qu'effectivement, si on fait juste regarder c'est quoi la séquence des particules qui constitue une personne, on n'est pas obligé de façon inhérente de le détruire pour faire ça, d'une part. Mm-hmm. Puis une fois qu'on aura obtenu la séquence, ben, on va pouvoir en faire autant de copies qu'on veut. Parce que si j'ai la séquence sur papier qui dit tel atome à telle place, tel autre atome, ainsi de suite, ben, je vais avoir une description complète, puis là, je vais pouvoir en reproduire 25 si ça me tente. Sauf que nous, ce qu'on dit, c'est OK, mais si, en plus, les propriétés des particules sont importantes, si ce qui fait qu'un individu est lui-même est en partie dû au fait que les particules ont des propriétés. Si on n'est pas juste comme un tas de blocs Lego qu'on a assemblés ensemble, mais que l'imprécision de ce qui se passe dans nos blocs Lego, les états quantiques de nos particules, si ça c'est pertinent à ce que moi je sois moi-même et non pas une copie, ben à ce moment-là, quand on va vouloir me téléporter, il va falloir prendre chacune de mes particules, prendre l'état quantique qui est dedans, et le téléporter dans la particule qui va être son substitut à l'autre bout. Puis ça, on pourra pas le faire pour en faire des copies, parce qu'on va être obligé de détruire les propriétés de l'original pour les envoyer dans la particule là-bas.
L'autre chose qui me vient à l'esprit, c'est l'aspect de fidélité de la transcription. Est-ce qu'il y a des circonstances où, à un moment donné, on transmet l'information et il y a une perte de qualité?
En fait, c'est une très bonne question. C'est-à-dire que dans les expériences que l'on fait actuellement, on travaille avec des particules pratiquement individuelles. On essaie de travailler dans des systèmes qui sont isolés au maximum pour pas que l'univers entier perturbe les particules qu'on transmet, les informations qu'on veut transmettre. Et effectivement, on est très, très loin de pouvoir transmettre un être humain par téléportation, mais même au niveau le plus fondamental, de s'assurer que ce qu'on arrive à transmettre soit vraiment une réplique identique de ce qu'on avait au début, mm-hmm. Il y a des difficultés technologiques à faire ça. Alors, une des applications qui est relativement immédiate de la téléportation, c'est que ça nous donne une meilleure façon de transmettre d'un endroit à un autre un état quantique. Donc, par exemple, tout à l'heure, je vous disais, bon, ben d'ici peut-être une génération ou deux, on aura des ordinateurs qui vont fonctionner sur les principes de la mécanique quantique. Ces ordinateurs-là vont communiquer entre eux en s'envoyant des particules. Puis si, en cours de route, les particules sont modifiées ou perdues, ben l'information va être gaspillée, on va avoir des pertes d'informations. Il faut qu'on ait des façons fiables de communiquer d'un ordinateur à un autre, mm-hmm. pour qu'on puisse faire le travail comme on le fait aujourd'hui dans Internet. Aujourd'hui, toute l'information qui circule est très intègre. On a toujours des informations très précises qui sont identiques à ce qui était transmis originalement, et ainsi de suite. Mais il faudrait que ce soit la même chose dans un monde où on a des ordinateurs quantiques. Alors, un des rôles importants de la téléportation, c'est que la téléportation va devenir fort probablement la méthode de transmission d'informations quantiques. Parce que ce à quoi on peut la comparer, c'est la transmission directe. Alors, par exemple, on peut imaginer que j'ai une particule de lumière et que je voudrais vous l'envoyer à l'autre bout du pays. Ben, je pourrais dire, je vais la mettre dans une fibre optique et espérer qu'elle va circuler dans la fibre optique jusqu'à l'autre bout du pays, puis arriver là-bas intacte. Malheureusement, la fibre optique, c'est très bon, mais d'espérer sur des centaines, sinon des milliers de kilomètres, qu'une particule de lumière traverse la fibre optique, qu'elle arrive à l'autre bout, puis qu'elle n'ait jamais perdu les propriétés qu'elle avait, c'est pas comme ça que ça se passe en pratique.
Il y aurait une dégradation qui se produirait.
Il y aurait une dégradation. En fait, c'est fort probable que la particule ne se rendra jamais. Et si jamais elle se rendait, il y aurait une bonne partie de l'information qu'elle contenait au début qui aurait été perturbée en cours de route, parce que quand même, sur des milliers de kilomètres, la fibre finit par interagir avec la particule.
Alors, qu'est-ce qu'il faut à ce moment-là? Une chaîne de retransmetteurs, un peu comme nos tours à micro-ondes?
Le rôle que la téléportation va pouvoir jouer là-dedans, c'est que au lieu de prendre une particule et de l'envoyer dans une fibre optique sur 1000 kilomètres, on va être limité à des distances peut-être de... Bon, actuellement, on parle d'expériences qui peuvent fonctionner jusqu'à une centaine de kilomètres, disons. Mais sur 100 kilomètres, on a des quantités d'erreurs qui sont de l'ordre peut-être de 5 ou 10 %. Mais ça, c'est beaucoup trop.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est beaucoup trop et on peut pas se contenter de ça, puis on peut pas se contenter d'avoir 10 % d'erreurs supplémentaires à tous les 100 kilomètres. Si on veut communiquer à 1000 kilomètres, on aura pratiquement plus de bonnes informations au bout de 1000 kilomètres. Alors, ce qu'on pourra faire, ce sont des stations de téléportation qui seraient situées à tous les 100 kilomètres. Puis l'objectif, ce serait de dire, bon, ben, je vais téléporter une particule qui va franchir le premier 100 kilomètres pratiquement sans aucune erreur, qui ensuite va parcourir le deuxième 100 kilomètres et ainsi de suite jusqu'au bout de son trajet. Et chacun des parcours va être fait par téléportation. Alors, l'avantage, c'est que pour franchir le premier 100 kilomètres, moi, je vais vous envoyer une centaine de demi-particules EPR. Ensuite, on va faire un travail localement pour les purifier. On va aboutir avec un plus petit nombre de particules qui sont très, très pures. Et là, je vais faire une téléportation sur l'état que je vais vous transmettre à travers les particules qu'on a purifiées. Et vous allez vous retrouver avec l'état que je voulais vous transmettre 100 km plus loin, qui aurait été pratiquement pas perturbé parce que le phénomène de téléportation, lui, reposait sur la pureté des 20 particules qu'on a réussi à créer.
Et
ensuite, chaque étape va être reproduite de la même façon. Il va avoir un lien à chaque 100 km qui va passer son temps à s'échanger des paires EPR, à les purifier et ensuite les utiliser pour téléportation.
Et tout ça se déroulerait à une vitesse inimaginable.
Ben, tout ça se déroulerait à la vitesse la plus rapide que la technologie nous le permettra, c'est-à-dire que tout ça, idéalement, il faudrait que ça puisse se produire des millions ou des milliards de fois par seconde de façon à être capable d'avoir un réseau de transmission qui est assez rapide. L'expérience qui a été faite sous le Danube, qui était le point de départ de notre conversation, mettait en évidence la possibilité de s'échanger des paires EPR à travers un canal, une fibre optique, dans des conditions réelles, c'est-à-dire sous une rivière, en fait c'est dans un tuyau d'égout que la fibre optique avait été installée, ils arrivaient à s'échanger des particules EPR qui étaient relativement bonnes, on parle d'une fidélité de 90-95% par rapport à la pureté EPR. Ils ont réussi à faire des téléportations à l'aide de ces particules-là qui étaient partiellement imparfaites parce qu'on n'avait pas des particules 100% valides. Mais ça met en évidence que même dans des conditions pratiques, concrètes, on est capable de s'échanger des particules EPR. La prochaine étape, c'est d'arriver à réaliser ce qui est inventé, qui est le phénomène de purification, qui va nous permettre d'en échanger plusieurs et d'en faire un plus petit nombre plus pur pour ensuite faire une téléportation qui est très, très fiable.
Thank you.
Mon invité aujourd'hui est M. Claude Crépeau, professeur à l'École d'informatique à l'Université McGill à Montréal, et notre sujet, la téléportation. Si on parle d'applications pratiques, là, on a déjà admis que téléporter un être humain, c'est pas pour demain. Mais vous avez parlé d'applications, par exemple, dans le monde de l'informatique. Faudrait peut-être préciser ce que ça serait. Vous avez parlé d'ordinateurs dont les composantes deviendraient de plus en plus petites. Mais dans le fond, on veut pouvoir véhiculer de l'information de façon de plus en plus rapide.
Ben, on veut véhiculer de l'information de façon de plus en plus rapide, mais on veut surtout que nos ordinateurs puissent résoudre des problèmes de plus en plus rapidement. Mm-hmm. Et ça se fait pas seulement en allant plus vite, ça se fait en trouvant des meilleures méthodes. Ce qui a été réalisé, c'est que lorsqu'on va se retrouver au niveau quantique, la grosse question qui nous pendait au bout du nez pendant quelques années, c'est quand on va se retrouver avec les règles de la mécanique quantique au lieu des règles qu'on connaît normalement, est-ce qu'on va être capable de faire le même genre de calcul que ce que l'on fait actuellement avec nos ordinateurs? Est-ce que ça va être mieux ou est-ce que ça sera pire? On ne savait pas au début si ce serait aussi bon, mieux ou pire. En fait, rapidement, on a compris que ça allait être au moins aussi bon. On est capable de faire au niveau quantique au moins le même genre de calcul qu'on fait dans les ordinateurs actuellement. On a des zéros, on a des uns, on peut faire des opérations élémentaires là-dessus, puis faire des calculs avec ça. Mais ce qu'on a découvert par la suite, c'est que les règles mécaniques quantiques vont nous permettre de faire des choses mieux que ce qu'on sait le faire avec nos machines actuellement. C'est pas parce que la machine va être plus rapide, c'est parce qu'elle va procéder autrement. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important, c'est que on a réalisé que des machines qui fonctionneraient sur des principes de mécanique quantique pourraient faire des opérations qu'on peut pas faire avec une machine conventionnelle comme on a aujourd'hui. Il y a des choses qui peuvent se faire dans ces ordinateurs quantiques-là qui sont bien mieux que ce qu'on peut faire dans nos ordinateurs classiques. Puis, il s'avère qu'il y a certains problèmes qu'on a mis en évidence qu'on pourrait résoudre beaucoup, beaucoup plus rapidement sur un ordinateur quantique que sur un ordinateur classique. Pas parce que l'ordinateur quantique va rouler plus vite, mais simplement parce qu'il y a certaines opérations qui nous facilitent la tâche énormément.
Ça va réduire le nombre d'instructions ou le nombre d'opérations qu'il faut pour traiter de l'information.
Exactement. Mm-hmm. C'est-à-dire que pour faire le même travail, on va être capable de le faire avec beaucoup moins d'étapes de calcul que sur une machine conventionnelle. Et ça, c'est parce que les étapes de calcul que l'ordinateur quantique nous permet de faire ont une puissance supérieure à un ordinateur classique. Pour résumer, ce que je suis en train de dire, c'est que quand on sera rendu à ce niveau-là, si on sait tourner les choses à notre avantage, si on sait produire la technologie correctement pour pouvoir l'exploiter, on va avoir un gain. On va avoir un gain qui va faire que certaines tâches qui nous intéressent vont soudainement être solubles, qu'on va pouvoir les résoudre d'une façon beaucoup plus efficace que ce qu'on savait faire jusqu'à présent. Et ça, c'est un des gros intérêts de l'ordinateur quantique, c'est qu'il va pouvoir, il va nous permettre de résoudre des choses d'une meilleure façon. Mais pour ça, il faut que toute l'information dans l'ordinateur soit des états quantiques, que l'information ne soit pas que des zéros ou des uns, que ce soit des possibilités qui correspondent à des états de particules quantiques. Et donc, il va falloir être capable d'emmagasiner des informations comme ça et de les transmettre d'un endroit à un autre. Donc, il va falloir qu'on ait un système de communication fiable pour transmettre des informations de type quantique qui sont, en termes de contenu, ils sont supérieurs à ce qu'on fait actuellement. C'est plus, je dirais, une question qualitative que quantitative. C'est pas qu'on veut transmettre les informations plus vite, c'est pas qu'on veut que les processeurs travaillent nécessairement plus rapidement. C'est surtout que lorsqu'on travaillera selon les règles du quantique, on va travailler mieux.
Un traitement de l'information plus efficace.
C'est ça. Ce traitement de l'information qui va être supérieur en qualité, qui va être plus rapide de façon inhérente par le fait que ce soit des calculs quantiques. Et donc, tous les calculs et les communications devront être sous type quantique. Et pour arriver en particulier à faire les communications d'un endroit à un autre, ben là, la téléportation quantique va jouer un rôle crucial. C'est même assez probable que ça va être la technologie principale qui va servir à faire des lignes de communication d'un endroit à un autre.
Combien d'années faudra-t-il attendre avant de voir apparaître cette technologie sur nos bureaux?
Ben, écoutez, les choses progressent quand même assez rapidement. C'est-à-dire que je me souviens, il y a 5-6 ans, dans les colloques sur le sujet, les physiciens proposaient 2 ou 3 phénomènes physiques qui pouvaient être utilisés éventuellement pour arriver à de telles technologies. Puis maintenant, dans les colloques, on entend parler d'une douzaine de technologies potentielles. On voit qu'il y a une évolution très rapide dans les yeux des physiciens, une accélération du nombre de possibilités pour arriver à implanter de telles machines. Donc, il est assez probable qu'une de ces possibilités-là, au moins, va résulter dans une technologie viable. Je dirais peut-être que d'ici une vingtaine d'années, on aura déjà des modèles expérimentaux qui vont nous montrer qu'effectivement, on va pouvoir procéder à une plus grande échelle par la suite. Et c'est sûr qu'il y a toujours une question d'investissement. À quel point est-ce que la recherche sur ce domaine-là est subventionnée? Elle est actuellement bien subventionnée. Mm-hmm. Mais quand on arrivera à un point où on aura déjà une ébauche de machine qui nous permet de réaliser des tâches qu'on croyait pas faisables avant, ben là, il va y avoir une accélération très, très grande. Si on regarde l'histoire de l'informatique moderne, je veux dire, les transistors ont été inventés dans les années 40, et puis rendus aux années 70, l'ordinateur commençait à prendre sa place. Puis, en l'an 2000, c'est omniprésent. Fait que les choses peuvent progresser très, très, très rapidement à partir du moment où un certain seuil a été atteint. Je pense que la prochaine étape, c'est d'arriver à démontrer de façon expérimentale la viabilité d'un prototype d'ordinateur quantique sur une taille acceptable, où on a une mémoire peut-être qui se compare à un ordinateur des années 60, mais qu'on a une fiabilité, qu'on voit que les calculs qu'on peut y faire sont stables, qu'on arrive à faire des résultats qu'on n'aurait pas pu faire autrement, ainsi de suite. Puis, une fois qu'on aura atteint de façon expérimentale ce niveau-là, ben, je pense que là, l'industrie va se mettre de la partie, puis investir pour amener ça à un niveau plus pratique. Fait que, bon, mes prognostics sont peut-être une vingtaine d'années pour des prototypes expérimentaux convaincant, puis après ça, peut-être une autre dizaine ou vingtaine d'années pour arriver avec des machines qu'on pourra acheter ou qu'on pourra utiliser pour vrai. Mm-hmm. Il y a un certain nombre de chercheurs quand même très crédibles, dont Roger Penrose, qui est un très grand mathématicien, physicien, qui a écrit il a écrit au moins 2 bouquins sur le sujet, dans lequel il essaie d'argumenter que, quelque part, il se pourrait que l'intelligence humaine soit dû en partie à des phénomènes quantiques qui se passeraient à l'intérieur des cellules de notre système nerveux et que il est possible que la mécanique quantique, quelque part, joue un rôle un peu partout dans les processus vivants. Mmh. Et que les phénomènes tels que la téléportation, tels que le phénomène EPR, soit des mécanismes qui existent en fait depuis toujours et qu'on est juste en train de découvrir. Et il se pourrait qu'on découvre que dans les systèmes biologiques, il y a des processus de cet ordre-là qui sont en place et qui font que nous sommes de la façon qu'on est parce que notre réalité intrinsèque est basée sur la mécanique quantique et qu'on n'est pas vraiment comme des petits robots construits avec des blocs Lego, où tout est parfaitement prévisible et bien contrôlé, qu'il y a des choses derrière, qui est l'information quantique, qui fait partie de nous, et qui n'est pas vraiment accessible, qui est une espèce de réalité qui dépasse ce qu'on peut observer, mm-hmm. et qui est partie intrinsèque de chacun de nous, de chacun des êtres vivants, et même des choses inertes, mais qu'il existe une information quantique qui est un peu en arrière-plan de l'univers et qui ne nous est pas accessible. Il existe une réalité qui ne nous est pas accessible et cette réalité-là, c'est l'état quantique de l'univers. Et que il est tout à fait pensable qu'il y ait des phénomènes naturels, biologiques, entre autres, qui sont reliés à cette réalité intouchable. Parce qu'on va se retrouver avec des outils complètement nouveaux, dont les possibilités sont pour l'instant absolument imprévisibles. C'est-à-dire qu'il y a tellement de nouveautés là-dedans, il y a tellement de potentiel pour des choses qu'on aurait pensé inimaginables auparavant, que les conséquences exactes de toutes ces recherches, on n'est pas encore capable de les prédire. On voit les choses. Moi, je suis un informaticien, donc je vois l'aspect informatique de cette chose-là. Il y a des gens que je connais qui sont des biologistes qui, eux, essaient de faire un lien entre les phénomènes biologiques et ces choses-là. Un peu partout dans les différentes branches de la science, ce genre de découverte qui est très fondamentale et qui fait rêver amène les gens à se poser des nouvelles questions et éventuellement à faire progresser leur propre science à partir de ces nouvelles découvertes. Donc, j'irai pas jusqu'à prétendre qu'on arrivera à faire quelque chose d'aussi spectaculaire qu'une cure pour le cancer, mais il est possible que ça amène dans un tas de sciences très pratiques une nouvelle conception et des nouveaux phénomènes qui permettront de faire progresser la science avec des plus grands pas.
C'est quand même une leçon d'humilité pour ceux qui osent prétendre que tout a déjà été découvert.
Je crois que ce qui caractérise le mieux les scientifiques, c'est leur capacité quotidienne à prendre conscience de leur ignorance. Parce que en tant que scientifique, on apprend un tas de choses, puis plus on en apprend, plus on se rend compte à quel point même les plus brillants et les plus connaissants en savent peu. Parce que finalement, c'est en prenant conscience de l'ampleur de la séparation entre ce qu'on connaît puis la réalité, c'est là qu'on prend conscience à quel point on sait rien. Quand on en sait peu, on se rend pas compte à quel point il nous en manque. Mais quand on en sait plus, là, on se rend compte à quel point il nous manque des grands bouts pour expliquer la réalité.
Claude Crépeau, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien.
Ça m'a fait extrêmement plaisir.
Je m'appelle Lucie Madeleine et j'aime vraiment les chansons. J'en fais un bouquet pour vous à Elle aime les chansons, tout de suite après les informations sur les ondes de CKSB.